Seigneur, merci pour être là avec nous. Nous ouvrons ta parole, Seigneur. Parle-nous toi-même. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Parle-nous en Jésus-Christ. Amen. Alors, 1 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 21. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous le rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous ? Que j'aille chez vous avec une verge ? Ou avec amour et dans un esprit de douceur ? Alors, c'est un passage un peu long, on va le découper en trois parties. Première partie, on va voir les chrétiens et la souffrance, le thème de la souffrance. Ensuite, on va voir le thème de Paul quand il dit « Soyez mes imitateurs ». Et enfin, on va voir la promesse de Paul en disant « Je reviens, je vais revenir, je reviens bientôt ». On va voir que c'est peut-être un autre retour en fait, qui est derrière tout ça. Vous voyez un peu où je vais en venir, j'imagine. Alors, tout d'abord, première découpe du texte, ce sera les versets 8 à 13. On va les relire. C'est ce texte où il parle de la souffrance. Je vais juste relire 8 et 9. « Déjà, vous êtes rassasiés, vous êtes riches. Alors, sans nous, vous avez commencé à régner. » Si vous régnez en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, les condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Alors, c'est difficile d'être précis, mais les spécialistes disent que la lettre, elle a été rédigée à peu près en l'an 54 ou 55, après Jésus-Christ, évidemment. Donc, le contexte dans lequel Paul écrit cette lettre aux Corinthiens, c'est déjà un contexte de persécution. Ça a commencé à Jérusalem avec le début de l'Église. Les Juifs ont commencé à persécuter l'Église. Et Paul était un des persécuteurs, un des tout premiers. Et puis ensuite, ça va être le tour des Romains qui vont commencer à persécuter les chrétiens. L'Évangile va se répandre assez rapidement. Ça va venir jusqu'à l'Empire, jusqu'à la capitale de l'Empire, à Rome. Et vous savez qu'en l'an 64, sous Néron, il va y avoir une très grande persécution pour des chrétiens qui vont être massacrés par l'empereur. C'est resté dans l'histoire comme peut-être l'une des plus grandes persécutions des chrétiens. Alors Paul, a priori, il est très probablement à Rome durant cette période. Quand il écrit sa lettre aux Éphésiens, il précise qu'il est prisonnier à Rome et il écrit à peu près en l'an 60-62. Et 64, c'est très proche, donc ça commence à sentir la poudre déjà à Rome. Alors, que faisaient les Romains quand ils remportaient une victoire? Ils étaient assez cruels, hein, c'était vraiment très dur. Ils aimaient beaucoup humilier leurs adversaires. Donc, par exemple, on sait hein, par l'histoire que lorsqu'un général romain revenait victorieux d'une bataille, il faisait une parade dans la ville, il se mettait en premier avec les chevaux, il paradait dans la ville, et derrière, en queue de peloton, il mettait les prisonniers et il les humiliait avec des peaux de bêtes, par exemple, pour montrer qu'ils allaient les sacrifier au jeu du cirque, en fait. C'était vraiment des barbares. Alors, c'est ce que dit Paul aux Corinthiens, il dit « Nous, nous souffrons, mais vous, à Corinthe, vous êtes tranquilles. » Eux, ils étaient tranquilles à Corinthe. Pour l'instant, c'était le début de l'Église, il n'y avait pas de persécution particulière. Donc il dit « Vous, vous faites les fiers, vous êtes riches, vous êtes en tête de cortège, vous paradez, vous faites les beaux. Mais nous, on est derrière, c'est nous qui souffrons. » Et ça fait partie du lot du chrétien. Être chrétien, les amis, c'est accepter de souffrir pour l'Évangile. C'est pas forcément dans la chair, peut-être que dans un pays comme la France, on est à peu près libre, mais vous aurez des persécutions dans votre entourage, dans le témoignage que vous donnerez. Vous serez attaqué, même dans les églises, ne vous inquiétez pas, l'ennemi se chargera de vous. À partir du moment où vous donnez votre cœur au Seigneur, vous êtes une proie, donc vous allez devenir potentiellement sa victime. Mais les Corinthiens, ils n'avaient pas du tout compris ça, à mon avis, ils n'étaient pas du tout prêts à ça. Hein. Eux, c'était... on fait les beaux, quoi. On fait les fiers. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Céphas, moi, je suis d'Apollos. Il y a plein de désordres dans l'Église qu'on va voir dès la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est... Ils étaient dans une position relativement tranquille et ils n'en ont pas profité du tout. Et ce n'était pas propre aux Corinthiens, c'était aussi propre à d'autres contextes de l'histoire, notamment les Juifs. Regardez avec moi le prophète Amos. Dieu déjà condamne une telle attitude, hein. Alors, Amos, oulala, où c'est Amos dans la Bible? Dur. Petit prophète, Amos Abdias. Voilà. Donc, si vous êtes dans votre Bible comme celle-ci, je vous aide, c'est à la page 591. Si vous n'êtes pas dans la même Bible que moi, bon, allez, deux tiers à peu près. Voilà, c'est juste après le prophète Joël, là. Joël, Amos, Abdias. Amos 6, verset 1 à 8. Vous allez voir qu'il n'y a pas que les Corinthiens hein, qui étaient tranquilles. Là, c'est Dieu qui parle aux Juifs. Il leur dit « Malheur à ceux qui sont tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grand de la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël. » Passez à Calné et voyez. Allez de là jusqu'à Hamat, la grande. Descendez jusqu'à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes? Et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Sous-étendu, moi l'Éternel, je vous ai béni en toutes choses. Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son du luth, ils se croient habiles, comme David, sur des instruments de musique. Ils boivent le vin dans des larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile. Et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs, et le cri de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. » Alors on voit cette condamnation, pourquoi? Ils étaient dans la passivité et dans l'orgueil. Et les Corinthiens, si vous êtes des fidèles de notre assemblée depuis les dernières semaines au moins, vous savez où on en est dans l'épître aux Corinthiens. Qu'est-ce qui était reproché en premier aux Corinthiens? L'orgueil. Et puis la passivité aussi, parce que là, Paul leur fait des reproches en disant « ça va les gars, vous êtes tranquilles ?» Pardon, hein, je suis un peu trivial, mais c'est un peu ça. « Ça va, tout va bien, Corinthe ?»« Ben nous, on souffre. Hein. » Voilà ce qu'il aurait pu dire l'apôtre. La bonne attitude, ça aurait été la suivante. Les Corinthiens, ils auraient dû prendre du recul en disant « Bon, on a été enseignés, on a reçu une mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ au monde entier. Alors, on va profiter que nous, on soit plutôt tranquille pendant que les autres souffrent. On va prendre notre part de la mission et on va aller porter la parole dans le monde entier. Depuis Corinthe jusqu'à toute la province grecque, jusqu'aux extrémités du monde. Mais non, pas du tout. Eux, c'était querelle inutile. Et puis, on faisait les beaux et les fiers, quoi. Et en fait, qu'est-ce qu'ils produisaient comme fruits? Bah, rien, quoi. Des fruits qui étaient mauvais. Alors que Dieu nous garde, mes amis, d'un tel comportement, hein, qu'on ne fait surtout pas comme ça, parce que nous, on est dans quelle position aujourd'hui? On est persécuté? Pas vraiment, hein, plutôt tranquille, non? On est plutôt tranquille, alors. Considérons que le temps est court, hein, profitons bien de notre liberté, il ne faut pas se lasser d'annoncer le salut, n'ayons surtout pas peur de le faire. Il y a peut-être des périodes où on ne pourra plus, hein, on ne pourra peut-être plus le faire en France ou librement ici, donc profitons bien de ce temps de liberté pour vivre pleinement dans l'amour fraternel aussi, hein, parce que faisaient les Corinthiens. Et puis pour répandre autour de nous la bonne nouvelle du salut offert en Jésus-Christ. Alors, deuxième partie, ça c'est le premier point. La première partie, l'apôtre, il leur fait des reproches en disant « Vous êtes un peu trop tranquille. Voilà, nous on souffre. Qu'est-ce que vous devez faire ?» Eh bien, regardez, versets 14 à 15. Ce n'est pas pour vous faire honte, qu'il dit l'apôtre, hein, que j'ai écrit cela. Ce n'est pas pour vous faire honte, hein, que je vous dis ces choses-là. Mais je vous avertis, c'est un avertissement, comme les enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi, Paul, qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Il leur fait encore, il leur pointe encore un truc du doigt et dit « Ah, vous pouvez vous donner 10 000 maîtres hein. ?» On a vu hein, que les Grecs, ils aimaient beaucoup la philosophie. Hein. Alors ils se donnaient des maîtres en philosophie, etc. etc. Bon, il n'y a pas que. Hein. Des fois, on aime bien se donner des maîtres aussi. Vous savez, vous regardez les plus grandes églises, regardez le style de prédicateur. J'en regardais un peu cette semaine par hasard, je suis un peu tombé dessus par hasard. Je crois que c'était aux États-Unis. C'est un prédicateur, il y a beaucoup de monde. Hein. Alors, il était jeune, t-shirt noir un peu serré, hein, un peu cintré, jean, basket, cool. Le petit micro, là, tranquille, grande scène, écran géant derrière, je sais pas, quelques milliers de personnes. Puis tranquille, quoi. Le ton assez cool, on va dire. Alors sur la forme, il avait tout pour attirer le garçon, hein, par son éloquence et tout. Alors on sait que, voilà. Et on peut imaginer qu'il était très populaire, d'ailleurs il y avait beaucoup de monde qui l'écoutait. Mais la question de se poser, c'est, les gens ils sont venus pour quoi? Ils sont venus pour lui ou pour la parole de Dieu? Ils sont venus pour qui en fait? Ils sont venus pour le jeune homme là qui faisait son truc ou ils étaient venus vraiment pour la Bible, pour le Seigneur? Alors je le regardais, je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est de regarder le fond de la prédication, quoi. Si le style, à la limite, quel qu'il soit, si la parole de Dieu est bien amenée, pourquoi pas? En fait, dans le message, il y avait très peu de versets bibliques. Et très peu. Dans ce type de prédication, si vous regardez un petit peu, les versets, ils servent un peu de prétexte. Il y a plein d'idées du prédicateur, et de temps en temps, il amène un petit verset pour dire, vous voyez David, dans tel passage, où Dieu dit que... En fait, c'est pour appuyer ses pensées à lui, bien souvent. Et derrière lui, il y avait un écran géant. Et au lieu de projeter les versets bibliques qu'il venait de citer, c'était ses phrases à lui, en fait, qui étaient sur le verset. Des trucs genre « Soyez les maîtres de votre vie »,« Ne laissez personne prendre de contrôle sur vous ». Enfin, je me suis dit « C'est une séance de coaching, quoi. C'est du coaching mental. C'est pas de la prédication biblique, ça. » Pardon, hein, je juge, hein, je suis sévère, mais vous ferez vos propres analyses si vous en voyez des fois un jour, mais... On vient pour quoi? On vient pour la parole de Dieu ou on vient pour le prédicateur? Alors, un bon message, mes amis, ça doit reposer sur quoi? Sur la Bible. Sur la Bible et sur la Bible seule. On est une église biblique baptiste. Vous avez vu, on a mis biblique avant baptiste. Parce que pour nous, c'est la Bible d'abord. Et ça doit être fondé sur qui? Sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Voilà ce qu'il doit y avoir. Alors ce type de prédication, pourquoi j'en parle comme celle que j'ai vue sur le web, en fait c'est une façon de séduire les Corinthiens du 21e siècle. Les Corinthiens, ils avaient beaucoup la forme. Il fallait que, voilà, Pierre, Paul, Apollos, tout ça, ils jugeaient beaucoup la forme du truc. Donc ils disaient, bah tiens, ces grandes églises-là, on va jouer beaucoup sur le fond, on va mettre la musique assez forte, on va jouer de la guitare, on va être cool, on va faire des textes pas trop longs, les prédications en général c'est 20 minutes, parce qu'il ne faut pas embêter les gens quand même, ils ne sont pas venus là pour ça, ils sont venus pour la musique surtout. Puis, après, on perd leur concentration au bout de 20 minutes. Bon, nous, on lit qu'il y a certains passages de la Bible, notamment le retour de Néhémie à Jérusalem, du matin jusqu'au coucher du soleil, Tout le peuple était venu écouter la parole de Dieu. Bah dit au bout de 20 minutes, vous arrêtez les gars, parce que vous êtes déconcentrés. Non, c'était toute la journée. N'ayons pas la tendance, je parle à ceux qui prêchent, de séduire les Corinthiens du 21e siècle. On doit annoncer la parole de Dieu avec vérité. Ça prend le temps que ça prend. Si ça prend 30 minutes, ça prend 30 minutes. 40, tant mieux. 50, amen. Et puis le temps qu'il faut, quoi. C'est la parole de Dieu. Ne cherchons pas à plaire au plus grand nombre, mais à annoncer seulement Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit, Paul ? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant aux Corinthiens ? Il leur fait un constat, un reproche. Maintenant, il leur dit, voilà, un conseil, 16 et 17. Les deux versets suivants. « Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. » Alors, Paul dit « Soyez mes imitateurs. » Pourquoi ? Parce que Paul, c'est un exemple d'humilité, en fait. Paul, c'est un exemple d'humilité. On l'a vu au tout début, « Dites-vous, vous faites les beaux, vous êtes dans la joie. » Nous, les apôtres, on nous martyrise, on nous prive de sommeil, on nous prive de nourriture. Plusieurs fois, j'ai pris 40 coups moins 1, j'ai fait plusieurs naufrages, il va dire à plusieurs... Il dit, moi, j'ai pris ma part, hein. Moi, j'ai pris ma part. Et en plus, j'ai le droit à vos reproches, dans vos lettres, vous me faites toutes, vous me dites que je suis méprisable et tout, et il en prenait, voilà, il encaissait beaucoup. Hein. Il dit, voilà, nous, les apôtres, on est méprisés, etc., on répond avec amour, on est torturés, on bénit. Voilà, faites comme moi. En fait, Paul et les apôtres, ils vivaient comme Jésus-Christ. Jésus-Christ a vécu la même chose. Lorsqu'il a été jugé, qu'est-ce qu'il a dit, Seigneur ? Comme une brebis qui va à l'abattoir, il n'a pas dit un mot. Il a été accusé par le peuple, il a été frappé, on lui a craché dessus, on lui a tiré sa barbe, on s'est moqué de lui. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que le feu du ciel descende sur vous, mon père vous jugera, maudit que vous êtes, race de vipère. Bah, il n'a rien dit. Il a tout encaissé, il a tout accepté, il s'est laissé mettre à mort. Il n'a rien dit. Et c'est ce que dit Paul ici, il dit nous on fait comme ça. Alors vous, soyez mes imitateurs. Mais ce qu'on voit dans le reste de la lettre, c'est que les Corinthiens, qu'est-ce qu'ils pensaient de Paul ? Comment ils le jugeaient, vous vous rappelez ? Méprisable. C'est quoi cet homme ? Il est méprisable, il est insignifiant en fait. Il vient, il prêche, il tremble là. Il n'est pas tout seul, hein. Ça nous arrive tous. Hein. Il est là, il tremble, il a peur et tout. C'est quoi cet homme-là ? Ah par contre, quand il écrit, là, il est vaillant. Là. Par contre, quand il est devant nous, il a peur. Hein. Donc Paul lui dit, d'accord, ok, donc on va y venir à la fin, mais d'accord, je vais revenir, du coup, on va en discuter de tout ça aussi, puis on va voir ensemble. Alors comme Paul semblait méprisable aux yeux de ses Corinthiens orgueilleux, donc ils veulent se donner des maîtres un peu plus respectables. Vous voyez, les 10 000 maîtres en question, c'est on va s'en prendre des autres, parce que Paul, pas terrible, quoi. Comme modèle, pas terrible. Et Paul, il dit, ah, mais moi je suis votre père, c'est moi votre père, vous pouvez vous trouver tous les maîtres que vous voulez, hein. Celui qui vous a amené l'évangile, c'est qui ? C'est moi. Donc c'est moi que vous devez imiter. Les parents, les enfants, ils imitent qui ? Les parents, ils imitent. Les enfants imitent les parents, toujours. Ceux qui ont des enfants, faites attention. Hein, parce que vos enfants vont reproduire tout ce que vous faites. Hein. On retrouve facilement après les caractères en disant « Oh, ta fille, elle te ressemble hein, les... physiquement, mais surtout, elle est comme toi, quoi, ton caractère, ta personnalité, ou voilà. » Attention, les parents, les enfants vont vous copier. Hein, faites bien attention à vous. Mais aussi dans l'Église, attention, Paul dit « Attention, hein, copiez-nous. Hein. Vous pouvez vous donner tous les maîtres que vous voulez. Mes chers enfants, il les appelle enfants. C'est moi votre père. Imitez-moi. » Et on dit que les chiens ne font pas des chats. Alors ça, c'est pas dans la Bible, mais c'est assez parlant, je crois. Alors Paul, il dit « Soyez mes imitateurs ». Alors on pourrait se dire il est quand même un peu orgueilleux, Paul. Vous imaginez cela, celui qui est au pupitre, là, ce matin, ça me tombe sur moi. Je disais « Les amis, faites comme moi, imitez-moi, faites tout ce que je dis, tout ce que je fais. » Il dirait un peu gonflé, lui, quand même. « Ça va, les chevilles ?» Mais Paul, il développe sa pensée. Regardez ce que Paul dit un petit peu plus loin, toujours dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Pourquoi Paul se permet de dire ça ? Parce qu'on pourrait dire qu'il est un peu arrogant, Paul. 1 Corinthiens 11, verset 1. Pourquoi il peut dire ça, Paul ? Eh bien voilà. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Parce que Paul dit « Moi, j'imite Christ. Je fais en sorte de copier Christ dans ma vie. » Quand je suis sous les coups, je ne réponds pas. Quand on me maudit, je bénis, etc. Je suis le modèle de Christ, suivez mon modèle. Moi, j'ai vu Christ, vous, vous n'avez pas vu, faites comme je fais moi. Donc Paul n'est pas du tout arrogant ici ou orgueilleux. Il dit, moi, je m'humilise, mon maître c'est Christ, je fais comme lui. Imitez-moi à votre tour, soyez comme moi. Mes amis, je vous pose la question, est-ce qu'on est des parfaits imitateurs de Christ? Est-ce qu'autour de nous, quand les gens nous regardent, ils disent, je vois Jésus-Christ. Dans ses paroles, dans ses pensées, ah, le Seigneur, il ferait pareil. Si Dieu existe, à mon avis, il ferait comme lui. Est-ce qu'on dit ça de vous? Vous savez, il y a des bons imitateurs. Nicolas Canteloup, vous connaissez? Des fois, le matin, à la radio, je pars, je me repeins de temps en temps, je tombe sur lui, hein, des fois, il me fait rire. Des fois, je le coupe parce que je lui dis, ah, c'est dommage, t'as beaucoup de talent, puis, les trucs, ça coince un peu, quoi. Pour un chrétien, ça fait mal aux oreilles. Parfois, c'est très drôle, hein, et parfois, il est très drôle. Alors, je l'écoute toujours un peu, si c'est pas bien, je coupe, mais je l'écoute toujours un petit peu. Et des fois, on ferme les yeux, là, et on se dit, ah, oh, purée, c'est dingue, on a l'impression que c'est le président qui parle, quoi. Il imite, alors, Sarkozy, Hollande, voilà, les autres, etc. Des fois, il est tellement doué, on se dit, ah purée, j'ai l'impression que c'est pas lui qui parle, quoi. C'est vraiment le président qui parle. Il est très fort. Et quand on parle, mes amis, est-ce que les autres, s'ils fermaient les yeux comme ça, ils disaient, ah, quand lui, il parle, ou quand je le regarde vivre, j'ai l'impression de voir Jésus-Christ. Posons-nous la question. Est-ce qu'on est des bons imitateurs? Sommes-nous des Nicolas Canteloup de l'Évangile? Sommes-nous des Paul, plutôt, de l'Évangile? J'ai fait étouffer de rire mon frère. Alors, première partie, donc, il a mis le point sur le problème des Corinthiens qui avaient une vie facile alors que les autres étaient dans le conflit, dans le combat, qu'ils avaient du temps pour proclamer l'Évangile et qui perdaient leur temps. Deuxième point, il leur dit, soyez plutôt mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Soyez des modèles comme je le suis moi-même du Seigneur. Et la troisième étape, ils disent, bon, alors on va quand même régler les comptes parce que je vais revenir. Versets 18 à 21, c'est la dernière partie de la lettre. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil. Ah, c'est comme si je ne devais pas aller chez vous, là. Je ne suis pas là, donc tout le monde s'enfle d'orgueil. Mais j'irai bientôt chez vous, là, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai, non pas les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Alors que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, un bâton, là, pour vous punir? Ou avec amour et dans un esprit de douceur? Alors cet avertissement, c'est une menace. Hein. Paul va revenir à Corinthe, hein, il le dit. Hein. Alors ceux qui m'ont calomnié maintenant, je vais être avec vous, puis on va pouvoir en discuter tous ensemble. Voici les trois étapes de la mission de Paul à Corinthe. Premièrement, il est venu à Corinthe, pour quoi faire? Ben on l'a vu, il est venu pour leur apporter le salut et les enseigner pendant un an et demi. Ensuite, il est reparti, c'est l'état actuel, là, il n'est plus là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il leur envoie Timothée. Timothée, il va leur rappeler tout ce que Paul a dit. Et dans un troisième temps, Paul dit « je vais revenir ». Et puis à ce moment-là, c'est soit pour le jugement, soit ce sera un moment de bénédiction entre nous. Donc premièrement, il vient, il apporte le salut, il enseigne. Il repart, il envoie Timothée. Et troisièmement, il revient. Vous voyez où je vais en venir ou pas? Non. Bon, alors je vais détailler. On peut voir un parallèle entre la mission de Paul et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus, comment ça s'est passé? Premier point, Jésus vient dans le monde pour quoi faire? Apporter le salut, enseigner, comme Paul. Ensuite, le Seigneur repart. Et qu'est-ce qu'il fait quand il repart? Ah, il envoie le Saint-Esprit. Regardez, on va regarder Jean 14, versets 25-26. Jésus, c'est comme Paul, ou Paul plutôt fait comme Jésus? Jésus s'est en allé, il a envoyé quelqu'un. Paul, il s'en va, mais il dit, je vais quand même t'envoyer un de mes fidèles compagnons. Jean 14, 25. Jésus parle, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en monde, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le même principe, hein. Paul, il applique les mêmes principes que Jésus. Il arrive pour apporter le salut, il reste un temps pour enseigner, un temps court, un an et demi. Jésus, c'est 3 ans, c'est relativement court. Il repart, mais il ne les laisse pas tout seul. Le Saint-Esprit pour Jésus, Paul, il envoie Timothée. Et qu'est-ce qui va se passer? Paul dit, je vais revenir, et alors, jugement ou bénédiction, on verra. Et avec Jésus, c'est comment? Jésus doit revenir. Le Seigneur va revenir, les amis. Hein, vous le savez.
Amen.
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 Et c'est quoi le retour de Jésus? Bah, pour les uns, qu'est-ce que ça va être? Délivrance, la joie, voilà. Ceux qui lui appartiennent vont être délivrés et libérés. Mais ceux qui ne lui appartiennent pas, ça va être quoi? Ceux qui sont contre lui, comme Paul, ça va être plutôt le bâton, la verge, la punition. Ça va être la même chose. Alors, est-ce qu'on est prêt pour le retour du Seigneur? Qu'est-ce qu'on attend, le bâton ou la bénédiction? Vaut mieux être en paix avec le Seigneur ici-bas, les amis, hein, parce qu'il peut revenir à tout moment. Et vaut mieux, avant qu'il soit trop tard, d'avoir fait la paix avec lui. Hein, si on veut rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, c'est quoi les conditions pour entrer dans le royaume de Dieu? Ah, on va regarder, on va voir ce que dit la Bible. On a dit qu'on était une église biblique, hein, on va passer de la théorie à la pratique. Ouvrons la Bible. Jean, évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Jean 3, verset 3. C'est Jésus qui parle. Si vous étiez là la semaine dernière, on a eu le témoignage de Fatou, notre sœur. Qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle avait peur de mourir, Fatou, quand, avant sa conversion. Elle avait peur de la mort. Parce qu'elle se disait, si je meurs, je vais où? Alors, il y en a, ils n'ont pas du tout peur du retour du Seigneur, parce que déjà, le Seigneur, il ne croit pas. Qu'il y ait un retour, ce n'est pas vraiment leur préoccupation. Ils ne le savent pas. Par contre, la mort, on sait tous que c'est inévitable. Hein. Donc, beaucoup de personnes, comme Fatou, c'est qu'est-ce qui va se passer si je meurs cette nuit ou demain, etc. Alors, comment faire pour être sûr de rentrer dans le royaume de Dieu comme Fatou? Jean chapitre 3, verset 3. Jésus répondit à Nicodème, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ah, il faut naître de nouveau. Alors, on va détailler un peu, versets 14 à 18, si tu veux avancer. Le Seigneur, il ne laisse pas des mystères comme ça, hein. Il explique aussi, hein. Voilà, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tu peux juste arrêter. Il parle d'un juif, là. Et le juif, il sait très bien, Nicodème, que quand Israël était au désert, à un moment, le peuple, en punition, hein, s'est piqué par des serpents. Et il y a beaucoup, une grande partie du peuple qui meurt, et c'est la grosse panique, et... Dieu dit à Moïse, voilà, tu vas te faire un serpent d'airain, tu vas le mettre au bout d'un bout de bois, tu vas le mettre comme ça, et tous ceux qui vont regarder seront guéris, seront sauvés. Donc, Christ reprend la même image, il dit ça, c'est une préfiguration, en fait. Le bois, c'était la croix. Il faut que vous regardiez à moi. Là, il est en train de dire, je vais être crucifié. Il dit, il faudra que vous regardiez à moi, parce que quiconque croit en moi est la vie éternelle. Il faut croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Cherchez pas, hein. Cherchez pas dans la philosophie, dans les 10 000 mètres que vous pouvez vous mettre dans votre vie comme les Corinthiens. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Verset 15, on y est. Verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous croyez au nom de Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Verset 17, on connaît moins. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc ici, on a les deux missions. La première mission, pourquoi Jésus vient, c'est la fin du verset, pour que le monde soit sauvé par lui. Et quand il va revenir, il va venir pour juger le monde. Il est en train de dire un petit peu les deux aspects. Jésus est mort pour nos péchés, mes amis. Tous ceux qui croient en lui ne périront pas, mais auront la vie éternelle. Ne périr pas, ça veut dire quoi? Qu'ils ne vont pas mourir en enfer toute la vie et être dans la condamnation pour l'éternité. Ils auront la vie éternelle, c'est-à-dire qu'ils auront le paradis avec le Seigneur. Donc il y a deux issues possibles, il faut faire son choix. Alors comment on fait? C'est simple, hein. Il suffit de confesser le nom de Jésus-Christ. On prie le Seigneur pour dire, voilà Seigneur, j'ai compris maintenant que ceux qui viennent à toi ne seront pas condamnés, ils seront sauvés, donc je ne veux pas terminer ma vie. Si je meurs, je ne veux pas terminer en enfer. C'est la réponse pour Fatou. Et je veux gagner le paradis, être avec toi toute l'éternité, donc je veux prier dans mon cœur. C'est juste ce qu'il y a à faire pour être sauvé, c'est pas compliqué. Hein. Le Seigneur n'a pas demandé des grands, un grand parcours, un grand cycle de formation ou une étude suivie pendant je ne sais quoi, et encore réservé à certaines parties du peuple, etc. Non, non, c'est tout le monde, hein. Tout le monde. Il vaut mieux faire la paix avec le Seigneur avant que le Seigneur revienne, parce que comme Paul tout à l'heure, on a vu que les deux issues, c'est quoi ? C'est soit c'est un retour dans l'amour, soit c'est un retour sous le châtiment. Donc, il vaut mieux faire le choix tout de suite. Hein. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être sauvé en passant par Jésus-Christ. Après, il y a d'autres points dans la Bible aussi. On dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, etc. Alors, ça, c'est pas des points pour... Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être sauvé. Après, il y a d'autres points. C'est pour ceux qui doivent hériter le royaume, voilà ce qui est attendu. En gros, quand vous allez arriver devant les portes du royaume de Dieu, il y a des... Alors, vous serez sauvés, vous rentrez, en fait. Mais ce que le Seigneur attend d'ici-bas, c'est qu'on ait certaines attitudes qui nous préparent à rentrer dans le royaume de Dieu. Il y en a plusieurs, je vais en donner quatre. On va regarder dans Matthieu 5, verset 3. Ce n'est pas des attitudes qu'il faut avoir pour être sauvé, il n'y a que le salut en Jésus-Christ. Mais c'est des attitudes qu'il faut avoir dès à présent, parce que c'est ce qui est attendu au ciel. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, dit Jésus. Ça veut dire quoi, ça ? C'est tout l'inverse des Corinthiens. Les pauvres en esprit, ça veut dire, selon les traductions, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. C'est ceux qui disent, moi, par rapport à la parole de Dieu, je suis rien du tout, quoi, en fait. Je suis rien. Même s'il y a des choses que je comprends, c'est par le Saint-Esprit, c'est pas moi, hein. Franchement, j'ai pas l'intelligence pour ça. Si je comprends des choses, c'est parce que le Saint-Esprit me permet de les comprendre. Mais par rapport à Dieu, à l'Évangile, à la Bible, je suis rien. Les Corinthiens, ils avaient eu un peu d'enseignement. Waouh, déjà, c'était, on est des maîtres, quoi. Un Paul le dit, hein, vous êtes riches, vous êtes sages, etc. Nous, on est fous, vous êtes sages. C'est comme ça qu'ils se considéraient. Le Seigneur dit, le royaume des cieux, c'est pour qui ? C'est pour les humbles. C'est pour ceux qui, par rapport à la parole de Dieu, se considèrent des élèves, pas des maîtres. Donc, c'est pas ce qui sauve, mais c'est une attitude qui est attendue du maître. Si on se convertit, il y a une deuxième étape, deuxième attitude à avoir, Luc 9, verset 62. À partir du moment où on décide de vivre la vie chrétienne, on l'a dit tout à l'heure, hein, ce sera dur, hein, il y aura des combats. Il y a aussi des attitudes à avoir. C'est toujours Jésus qui parle, qui enseigne. Luc 9, 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. L'idée, c'est quoi ? C'est quiconque met la main à la charrue, c'est allez, on y va, j'y vais avec le Seigneur au boulot. Mais si tu regardes en arrière en disant pas mal avant quand même, parce que là c'est bien devant, ça a l'air pas mal, le Seigneur il promet de belles choses, j'ai vraiment envie d'y aller. C'était pas mal avant quand même, j'ai quand même vécu des bons moments, il y a quand même des choses qui me plaisaient derrière quand même. Moi j'aimais bien faire la fête, j'aimais bien faire telle chose, etc., etc. Donc quiconque veut se dire allez en avant mais en même temps regarde en arrière, celui qui a l'image du laboureur, il peut pas regarder devant et derrière à la fois, ça va être compliqué. Donc celui qui décide de marcher avec le Seigneur et d'entreprendre des choses, mais qui en même temps regarde en arrière, il n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Donc, quand on va avec le Seigneur, quand on donne son cœur au Seigneur, vous oubliez tout ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a devant, c'est très bien. C'est largement meilleur que ce que vous avez laissé derrière. Pensez à la femme de Lot dans la Bible. Vous connaissez cette histoire ? Quand Dieu détruit Sodome, il sauve Lot et puis sa famille, mais sa femme regarde en arrière. Dieu avait dit ne regardez pas en arrière. Et elle regarde quoi ? Sa maison, sa vie, je ne sais quoi. Et jugement, tout de suite, elle se transforme en statue de sel. C'est dans la Genèse, vous pourrez regarder. Vous êtes au chapitre 21, quelque chose comme ça. Voilà, regardez un petit peu ça si vous le voulez tout à l'heure. Mais voilà, tous ceux qui regardent en arrière et qui s'engagent pour le Seigneur ne sont pas propres au royaume de Dieu. Troisième attitude, acte 14, 22. Donc, être humble par rapport à la parole de Dieu, se considérer comme un élève, pas un maître. Laissez ce qu'il y a derrière, allez de l'avant avec le Seigneur. Et puis ensuite, mes amis, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Paul aux Corinthiens. Acte 14, 22. Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi, en disant, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faudra entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Paul a dit aux Corinthiens, ça va pas être facile, hein. il faut accepter de souffrir pour l'Évangile. Si vous venez au Seigneur, il faut savoir que ce ne sera pas le club Méditerranée ou le camp à Anote. Hein.
Voilà.
Il y aura des combats. Je ne sais pas si vous en avez eu à Anote, des combats, en tout cas dans la vie chrétienne. Il y en aura, vous serez calomniés, persécutés, malmenés, calomniés, je ne sais plus si je l'avais déjà dit, enfin, je crois. Enfin, il y aura plein de choses comme ça qui vont être très désagréables. Attendez-vous à souffrir, les amis. Attendez-vous à vous fâcher avec la famille, attendez-vous à perdre des amis, attendez-vous à... Voilà, plein de choses comme ça. Donc, il faut être persévérant. Voilà. C'est comme ça qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Christ, il n'a pas eu qu'une vie facile. Hein. Il a souffert bien plus que nous. Je crois que même ce qu'on vivra, ce sera rien sans commune mesure avec ce qu'a souffert le Seigneur pour nous. Et même si on vivait des choses comme lui, nous, ce serait juste si on recevait ce châtiment. Lui, c'était injuste. Et sur la marche avec le Seigneur, donc c'est pas un long fleuve tranquille. Vous savez, le chemin est étroit, hein, c'est l'image qui est prise. Hein. Il y a plein d'obstacles dessus. Hein. C'est pas une ligne droite, c'est pas l'autoroute. Hein. C'est une petite route de montagne. Là. Et puis, il y a des brigands, il y a des méchants, des voleurs, etc. dessus. Donc, il y a des pièges. Il faut être persévérant. Et le dernier point que je vais voir avec vous, c'est dans Matthieu 25, versets 34 à 36. Une attitude aussi qui est attendue de ceux qui hériteront le royaume de Dieu. Matthieu 25, 34 à 36. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Verset 40. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc il faut avoir de la compassion pour les autres, les amis. Alors, la compassion, c'est une attitude du chrétien. Avant toute chose, avoir de la compassion pour tous, mais avant toute chose, les plus petits de mes frères. C'est bien les chrétiens dont on parle ici quand même. Le Seigneur attend avant toute chose de la compassion, avant tout pour ceux qui lui appartiennent, pour les frères et sœurs. Et c'est dit à un autre moment dans la Bible aussi. Hein. En gros, c'est « Soyez bons avec tous », mais avant tout, tout d'abord, avec les chrétiens. Est-ce que c'est ce que faisaient les Corinthiens ? Pas du tout, hein. Non, pas du tout. Hein. Eux, il y avait de la calomnie, il y avait de la maltraitance pour les autres chrétiens dans le monde. Ils étaient persécutés, mais les Corinthiens, c'était pas vraiment le premier de leurs soucis, hein. Non, pas du tout. Hein. On va le voir la semaine prochaine. C'est très content qu'il y ait du désordre moral chez eux. Ça aurait été très orgueilleux. Il y en a un qui a pris la femme de son père. Hein. C'est vraiment formidable dans cette église. Voilà, c'était un peu l'attitude. Je la caricature volontiers, mais on verra la semaine prochaine que c'est exactement leur façon d'être. Hein. Donc là, ce texte-là nous dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Ayons de la compassion pour les autres et avant tout pour les chrétiens. Alors n'oublions pas mes amis, les frères et sœurs persécutés, continuons de prier pour eux. On n'a plus la carte là derrière, mais porte ouverte, faites une carte. Je la regardais cette semaine, je me disais, c'est rouge quand même dans beaucoup d'endroits. Hein. Et nous, on est dans des zones vertes, hein. On a vraiment intérêt à en profiter. Quoi. Et on peut prier librement, on peut se réunir librement. Donc gloire à Dieu, mais ne perdons pas notre temps comme les Corinthiens. Quoi. Alors mes amis, je conclue, parce qu'il paraît que vous avez un pique-nique après. J'ai dépassé les 20 minutes hein, au-delà du seuil de concentration, je crois que ça va, vous êtes resté attentif, c'est bon. Ça va, on a du temps? Alors, je recommence le message. On a vu ce matin trois points. Tout d'abord, les chrétiens et la persécution. Rappelez-vous, les Corinthiens, ils avaient vraiment une haute estime d'eux-mêmes, c'était des maîtres, ils étaient sages, etc. Et donc, ils en étaient venus à mépriser leur conducteur, hein, comme Paul. Eh bien, être chrétien, ce n'est pas l'attitude qu'il faut avoir. Il faut être humble par rapport à la parole de Dieu. Et il faut aussi accepter de souffrir pour l'Évangile. Et au lieu de répandre la bonne nouvelle du salut, les Corinthiens, ils se mettent plutôt le désordre au sein de leur assemblée. N'ayons pas la même attitude qu'eux et allons de l'avant avec le Seigneur. Le deuxième point, c'était être des imitateurs. Voilà. On avait vu qu'il y avait un piège, c'était celui de se donner des coachs. hein, les coachs mentaux, là, les prédicateurs qui veulent séduire les Corinthiens du XXIe siècle. Il faut plutôt avoir une prédication qui est basée sur la Bible et sur Jésus-Christ, et être l'imitateur non pas du coach qui a l'air super sympa et super cool, mais de Dieu lui-même. Afin d'être un bon témoignage auprès de ceux qui nous entourent, est-ce que quand vous parlez, quand vous agissez, les gens se disent « Waouh, j'ai l'impression de voir le Seigneur ». Je mets la barre un peu haute, hein, pour moi aussi. Le retour du Seigneur, troisième point, voilà. Seigneur est venu une première fois il y a 2000 ans pour sauver le monde et enseigner. Il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit aujourd'hui pour nous éclairer justement sur sa parole et nous convaincre de péché aussi. Mais il va revenir pour la bénédiction ou le jugement. Alors, c'est important d'être sauvé, c'est essentiel, c'est vital même, pour faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et on a vu aussi quatre attitudes qui doivent être celles de ceux qui doivent entrer dans le royaume de Dieu. Rappelez-vous, c'est humilité par rapport à la parole de Dieu, ne pas regarder derrière, être persévérant parce qu'il y aura des épreuves, et avoir de la compassion pour les autres et particulièrement pour les frères et sœurs en Christ. Je vous invite à prier. Allez, Seigneur, tu nous dis tant de choses et quand on se regarde face à la parole, Seigneur, Seigneur, je suis le premier à confesser, Seigneur, que je ne suis pas du tout à la hauteur. Hein. Seigneur, tes attentes sont grandes et tu es saint. Tu as dit « Soyez saints car je suis saint ». Seigneur, il est difficile de se regarder devant ta parole et de se voir blanc comme neige, Seigneur. Il y a tellement de décalage entre ce que tu attends et ce que nous sommes, ce que je suis. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à nous laisser enseigner, à avoir l'humilité, Seigneur, de se laisser transformer par toi. Tu sais nos combats, Seigneur, tu sais que nous voulons parfois regarder en arrière. Aide-nous, Seigneur, à ne regarder qu'en avant. Que tu nous rendes, Seigneur, zélés pour toi, un cœur pour toi, Seigneur, et prêts à nous laisser transformer par toi. Nous voulons être des imitateurs, Seigneur. Nous voulons te ressembler en toutes choses. Aide-nous en Jésus-Christ. Et pardonne nos fautes. En ton nom. Amen.